C'était elle qui achetait les vêtements des enfants. La mère de Jacques rentrait tard le soir et se contentait de regarder et d'écouter ce qui se disait, dépassée par la vitalité de la grand-mère et lui abandonnant tout. C'est ainsi que Jacques, pendant toute sa vie d'enfant, devait porter des imperméables trop longs car la grand-mère les achetait pour qu'ils durent et comptait sur la nature pour que la taille de l'enfant rattrape celle du vêtement. Mais Jacques grandissait lentement et ne se décida vraiment à pousser que sur ses 15 ans. Et le vêtement était usé avant d'être ajusté. On en rachetait un autre selon les mêmes principes d'économie. Et Jacques, dont les camarades moquaient l'accoutrement, n'avait plus que la ressource de faire bouffer ses imperméables à la ceinture pour rendre original ce qui était ridicule. Au reste, ces courtes hontes étaient vite oubliées en classe, où Jacques reprenait l'avantage, et dans la cour de récréation où le football était son royaume. Mais ce royaume était interdit, car la cour était cimentée et les semelles s'y usaient avec une telle rapidité que la grand-mère avait interdit à Jacques de jouer au football pendant les récréations. Elle achetait elle-même pour ses petits-fils de solides et épais souliers montants qu'elle espérait immortels. Pour accroître en tout cas leur longévité, elle faisait clouter leurs semelles d'énormes clous coniques qui présentaient un double avantage. Il fallait les user avant d'user la semelle et ils permettaient de vérifier les infractions à l'interdiction de jouer au football. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver sur Radio G pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h, en semaine impair, mais aussi à votre guise sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. Pas de pire grand-mère que celle interdisant à son petit-fils d'accomplir une joie monumentale, jouer au football avec les copains dans la cour d'école. Je le dis presque sans exagérer, et c'est bien le drame vécu par Jacques, alias Albert Camus, dans son dernier livre posthume et autobiographique, paru chez Gallimard en 1994, Le premier homme, dont je viens de lire un extrait. Où il s'agit notamment d'une enfance avec grand-mère algérienne, point commun entre le prix Nobel de littérature 1957 et notre invité que j'accueille avec plaisir à notre micro, Isma Hassaïn Poirier, professeur d'anglais à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Bonjour Isma, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Merci de l'invitation.
Isma, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Ma grand-mère maternelle s'appelait Marie-Louise, et ma grand-mère paternelle s'appelait Chérifa.
Et toi, comment tu les appelais ? C'était quoi leur surnom ?
Alors, ma grand-mère maternelle, on l'appelait Mamie Poirier, puisque c'était son nom de famille, Poirier. Et ma grand-mère paternelle, je l'appelais Mima, qui n'est pas le verlan de mamie, mais qui est en fait... mes oncles et tantes l'appelaient Yema, qui veut dire maman en arabe, mais quand j'étais petite, j'arrivais pas à faire le Y. Alors, c'est devenu Mima, et toute ma famille, mes cousins, cousines, l'ont appelée Mima, en fait.
Ça a été Mima pour tout le monde, c'est toi qui as décidé.
Exactement.
Restons sur Marie-Louise pour commencer. C'était qui Marie-Louise ? Est-ce que tu peux nous la dessiner, nous la raconter ?
Marie-Louise, c'était la grand-mère que je voyais l'été, puisque je passais tous mes mois de juillet chez elle, à Chantossé-sur-Loire. Et c'était la ferme, puisqu'elle vivait dans une ferme. C'était les animaux, c'était tous ces repas et la campagne en fait dont j'avais pas du tout l'habitude puisque moi j'ai grandi en région parisienne et Marie-Louise c'était aussi le pain grillé avec du beurre et du chocolat en poudre dessus pour le goûter. C'était un vrai bonheur.
Et le chocolat en poudre pour faire le chocolat chaud habituellement.
Oui c'est ça, mais là sur les tartines quoi. Ouais. Avec le beurre salé tout chaud. Merveilleux. Et Marie-Louise, c'était aussi ma grand-mère qui se levait à 2h du matin et qui allait dans les champs pour voir parce que, je cite, une vache devait mettre bas. Ce qui ne nous rassurait pas tellement à l'époque, puisqu'elle partait évidemment sans téléphone portable et que j'étais avec ma cousine, je passais mes vacances avec ma cousine, qui elle vivait à Chantossé. Et donc on était toujours effarés de la voir partir et on la suivait quand même dans les champs parce que...
Ça vous paraissait incroyable de se lever la nuit pour aller s'occuper d'une vache qui allait donner naissance.
Ça nous paraissait extrêmement dangereux surtout. Alors on lui disait, mais oui, mais si tu tombes, on ne saura pas. Mais non, je ne vais pas tomber. Alors elle était très, très, très sûre. En même temps, c'est vrai, elle n'est jamais tombée.
Et elle était toute seule, elle vivait seule à l'époque où vous alliez passer vos vacances ?
Oui, mon grand-père était décédé. Alors je crois que mon grand-père est décédé en 89, mais je ne suis plus très sûre. Et elle vivait seule, oui.
Et si tu devais la dessiner, nous dire à quoi elle ressemblait, sa taille, ses vêtements, sa silhouette.
Alors, un détail qui nous a toujours subjugués, c'est qu'elle avait des cheveux d'un blanc immaculé, magnifique, qu'on lui enviait vraiment. Et sinon, des traits très, très fins, très simples, des mains très, très abîmées aussi. Et je me rappelle parce qu'on préparait souvent la salade verte toutes les deux. Et du coup, je la voyais laver la salade et je regardais ses mains. Et ça m'avait beaucoup marqué. Sinon, bah non, très simple, enfin, dans ses vêtements, très, très simple. Et beaucoup, beaucoup de vêtements, surtout pour sortir et pour s'occuper du jardin, en fait.
Qu'est-ce que tu voyais sur ses mains? Qu'est-ce que ça te faisait à l'intérieur de toi?
Je sais pas, j'avais l'impression des mains qui travaillaient la terre, alors que, pas tant, enfin, à part du jardinage, oui, mais pas tant que ça, mais il y avait vraiment ce côté rugueux, presque. Et en même temps, c'était ma grand-mère, donc elle avait jamais vraiment les mains rugueuses. Enfin, c'était pas... Elle était douce, quand même.
Elle avait cette douceur aussi dans la manière de se comporter avec vous. C'était comment?
Elle était... Elle parlait pas beaucoup, en fait. Mais je crois que c'est un milieu où on parle pas beaucoup, forcément. Après, c'est par comparaison à mon autre famille, enfin là où j'ai grandi, où c'est complètement différent. Et je sais que souvent, j'essayais de lui poser des questions sur ma mère, sur sa fille. Et ça la rendait triste parce que ma mère est décédée très jeune. Et je lui posais des questions. Elle refusait jamais de me répondre. Mais je voyais qu'elle s'assombrissait et que c'était triste pour elle. Alors je m'en voulais de la rendre triste. Alors je ne posais plus de questions. Donc je ne voulais pas la rendre triste, en fait. Mais c'est vrai que, bah oui, perdre une enfant... sa fille si jeune, ça peut que rendre triste pour toujours, je pense.
Tu as eu du mal à avoir des informations sur qui était ta mère. En tout cas, c'est pas là que sont venues vraiment toutes les infos, toute la mémoire.
Oui, c'est ça. De sa part, ça a toujours été compliqué. Et surtout parce que moi, je voulais pas l'embêter. En fait, je voulais pas la rendre triste.
Oui, souvent, on légitime notre besoin d'informations dès lors que ça ne ravive pas un chagrin, dès lors qu'on fait pas du mal aux autres.
C'est ça, et je pense qu'elle aurait adoré me donner des choses. Et elle m'a donné tout ce qu'elle avait, en fait. Des objets, des vêtements, toutes les courriers de condoléances qu'elle a reçus. C'est moi qui les ai récupérés. Je lui ai demandé, elle m'a dit oui. Enfin, donc, il y avait quand même cette volonté de me faire connaître qui était ma mère. Moi, j'avais 1 an, en fait, quand ma mère est morte. Donc, après, toutes les autres personnes qui avaient connu ma mère, par contre, ont été extrêmement ravies d'en parler. J'ai jamais eu de... J'ai jamais été confrontée à un vrai silence, en fait, là-dessus.
Oui, même ta grand-mère, s'il n'y avait pas beaucoup de mots, il n'y avait pas non plus de fermeture et elle t'a livré. Ça a pris la forme des objets, des accessoires, des souvenirs, peut-être pas les siens, mais elle t'a livré des choses, elle a délivré des choses.
Et puis de son silence aussi, parce que ça veut dire aussi voilà, toute la douleur que ça représentait pour elle.
Alors du coup, comment ça se passait ces vacances, qu'est-ce que vous faisiez? Vous l'aidiez dans la ferme avec les... Tu m'as dit que tu étais souvent avec une cousine, c'est ça?
On ne l'aidait pas beaucoup, je pense, mais... parce que j'ai une cousine qui est à mon âge, en fait, donc on était ensemble tout le mois de juillet. On l'aidait... officiellement, on ramassait les fraises, mais en vrai, on en a mangé la moitié. Voilà, je pense surtout qu'on l'amusait, en fait, et puis on l'occupait, et on devait bien l'embêter parfois, mais... En vrai, au tout début, quand j'étais vraiment petite, il y avait aussi mon arrière-grand-mère qui était là, grand-mère Marais. Et je me souviens parce que j'avais une petite peluche en panda donc, que j'adorais, et je l'avais mis à côté de la cheminée, et elle m'avait dit « Ne le laisse pas là, il va devenir tout marron, son ventre va devenir tout marron. » Je me dis « Mais non, n'importe quoi, un peu, t'es une vieille gâteuse, quoi. » Et en fait, je suis revenue après, effectivement, ma petite peluche était toute marron, donc bon. J'aurais peut-être dû l'écouter, voilà. Et cette arrière-grand-mère était assez fascinante parce qu'elle avait des cheveux très très longs, mais toujours en chignon. Et avec ma cousine, le défi de l'été, c'était de la voir au moment du coucher, parce que c'est là que ma grand-mère lui défaisait sa natte, et on voulait absolument la voir. Et je pense qu'on a réussi une fois, quoi. Mais
c'était un secret bien gardé.
Ouais, bah ouais.
Et alors, une fois les vacances terminées, tu rentrais en région parisienne, où tu vivais donc avec ton autre grand-mère, c'est ça?
En fait, je passais le mois d'août chez mon père. Et en septembre, je rentrais dans le 93 avec mon autre grand-mère.
Donc, depuis que tu es toute petite, tu vivais avec ta grand-mère. Vous viviez toutes les deux. D'accord.
Oui. Quand je suis arrivée, il y avait encore l'une de mes tantes qui vivait avec nous, mais pas très longtemps. Et rapidement, on est restées que toutes les deux, ma grand-mère et moi.
Ça s'est fait très naturellement. C'est elle qui t'a prise avec elle.
Ça part d'une promesse que ma grand-mère paternelle, du coup, a fait à ma mère. Parce qu'elles s'entendaient très très bien toutes les deux. Et quand ma mère est tombée malade, elle était enceinte de moi. Et ma mère ne voulait pas que je sois gardée par des nourrices. Donc ma grand-mère paternelle est venue s'installer avec mon père et mon frère à l'époque, qui est plus grand que moi. Et quand il a été question que mon frère entre à l'école, moi j'étais petite, j'avais un an et quelques. Et c'est là que je suis repartie. Ma grand-mère devait rentrer en région parisienne. Et c'est là que je suis partie temporairement. Jusqu'à ce que je puisse rentrer à l'école et que je retourne avec mon père. Et le temporaire est devenu du définitif et je n'ai jamais quitté la maison de ma grand-mère.
Et donc, Chérifa a tenu sa promesse.
Ah ouais, voilà. Et encore plus.
Alors, dis-nous à quoi elle ressemblait, Chérifa ou Mima. Toi, tu l'appelais Mima.
Hein. Ouais, Mima, ouais. Je crois qu'elle faisait 1 mètre, pas tout à fait, 70, les yeux marrons, la peau mate, brune. Les cheveux très fins, j'avais toujours l'impression que ses cheveux flottaient au-dessus de sa tête, comme une espèce de casque qui flotte. Les cheveux colorés, elle se laissait jamais les cheveux blancs. C'était une promesse, sa mère faisait la même chose, et voilà, donc c'est une promesse qui se faisait entre femmes. Et voilà, des longues mains, des doigts tout fins, et un beau sourire.
Donc, Chérifa, qu'est-ce qu'elle faisait comme métier? C'est quoi son histoire de vie? Elle est née en Algérie, c'est ça? Elle est arrivée un moment en France? Pour quelle raison? Comment?
Elle n'a jamais travaillé. Elle adorait l'école, mais à 12 ans, son frère, son grand frère, parce que son père est mort quand elle avait 5 ans, donc c'est son grand frère qui est devenu un peu le chef de famille, on peut dire. Et son frère lui a dit qu'elle arrêterait l'école à 12 ans, donc elle a arrêté l'école. Elle m'a dit qu'elle aurait voulu être institutrice. Et elle est arrivée en France, elle avait 40 ans, donc avec son mari et ses enfants. Elle a eu 8 enfants, qui sont tous nés en Algérie.
Et qui sont venus en France pour quelques-uns ?
Oui, oui, oui.
Donc ta tante dont tu parlais et d'autres, vous les voyez, les oncles, les tantes, passaient beaucoup à la maison, tu les voyais beaucoup quand tu étais enfant ?
Oui, alors surtout deux de mes tantes, parce qu'elles habitaient juste à côté. Et donc ouais, mon père habitait loin, etc. Mais oui. Puis toutes les réunions de famille, en fait, on se faisait chez ma grand-mère. Donc c'était un peu le point névralgique de la famille.
Du coup, elle est arrivée en France à un moment donné de sa vie. C'était quoi la France pour elle ? C'était quoi qu'est-ce que ça a déclenché un petit peu ce mouvement et qu'est devenue l'Algérie pour elle?
Alors, la France, au début, c'était pas son pays en fait. Elle n'a pas décidé de venir en France. Elle a suivi son mari. Elle a reconnu quand même, elle disait que c'était quand même une chance pour ses enfants, dans le sens où ils ont pu faire des études, avoir cette vie, la vie qu'ils ont maintenant en fait. Et l'Algérie, c'était. Ça restait quelque chose de douloureux en fait, puisqu'elle a été arrachée à son pays. Elle y est retournée plusieurs fois parce que sa maman était malade, et après, donc pour le décès de sa mère, et le mariage de son fils aîné, qui s'est marié là-bas, mais qui habitait en France, qui vit en France. Mais après, il n'était plus question qu'elle y retourne. Alors, c'est intéressant parce que par contre,
on est dans quelles années là, à peu près, quand elle est partie, pour qu'on se rende compte aussi un peu avec l'histoire.
Ils sont arrivés en France en 67.
D'accord.
Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est beaucoup allé en vacances en Tunisie, au Maroc, mais jamais en Algérie. On ne retournait pas en Algérie. En même temps, c'était son pays, c'était pas les vacances en fait. Donc, elle adorait qu'on parte au Maroc, en Algérie, en Tunisie, mais il n'était pas question de retourner en Algérie en fait. Ça aurait été trop douloureux pour elle.
Qu'est-ce qu'il y avait comme discours de sa part pour toi? C'était quoi cet environnement éducatif? Elle t'a élevé, mais est-ce qu'elle t'a élevé comme une mère, comme une grand-mère, comme un peu les deux? C'était quoi cet environnement?
Elle m'a élevé un peu. Elle a fait un peu tout en fait. Après, il y avait mes tantes qui étaient là aussi, qui ont beaucoup participé à mon éducation. J'avais une tante qui était dédié aux réunions parents-prof, par exemple. Alors, elle faisait toutes les réunions parents-prof. Après, on rentrait à la maison. Il fallait faire tout le compte-rendu à ma grand-mère. Donc, moi, je me faisais comme si je me faisais la réunion parents-prof deux fois. Et donc, c'était intéressant. Ma grand-mère, elle a été comme un guide, en fait. Enfin, et surtout, ce qu'elle m'a transmis, fait des études, soit indépendante. Tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Tout ce qui l'a fait souffrir, en fait. Tout ce qui lui a manqué. Donc, elle a jamais travaillé. Donc voilà, elle a divorcé quand, peu de temps avant que j'arrive, moi, dans la maison. Enfin, voilà. Donc, moi, j'ai jamais vécu avec mon grand-père. Mais voilà. Donc, c'est cette histoire-là, elle, de dépendance par rapport à son mari, qu'elle voulait pas du tout qu'on reproduise. Et elle m'a tenu ce discours qui était le même que celui qu'elle a tenu à ses filles, en fait, qui ont fait des études et qui, voilà, on a très, très bien... Elle était charismatique, ma grand-mère, quand elle disait quelque chose, elle n'avait pas besoin de le dire deux fois. Hein, donc,
Oui, elle vous a inculqué ce mouvement émancipateur, fais à ta manière et ne laisse personne choisir à ta place.
Et ne dépend jamais d'un homme, ça c'était vraiment son message.
Elle a été obligée, c'est ça, de se marier avec cet homme, j'imagine.
Oui,
ou... D'accord.
Elle s'est mariée à 19 ans, c'était un mariage arrangé, donc elle ne savait pas.
Et ce qui est beau, c'est qu'elle a réussi à l'obtenir, cette autonomie, cette indépendance durant sa vie. Elle a divorcé, elle a repris sa liberté. Tu l'as vu reprendre cette liberté, elle en était heureuse.
Ouais, oui, parce que elle a pu le faire parce que ses enfants aînés ont pu après l'aider. Ils ont commencé à travailler, donc ils l'ont aidée. Et c'est vrai que je la voyais. Alors, elle avait toujours beaucoup de regrets. Sur les choses qu'elle aurait voulu faire, sur les choses. Alors, et moi, j'essayais, alors je me suis dit. Rapidement, j'ai réalisé l'âge que ma grand-mère avait par rapport aux parents de mes copains d'école. Et donc, je me suis dit, oula, il faut vraiment que je la protège et que je la préserve pour la garder le plus longtemps possible avec moi. Et à chaque fois que j'ai eu, je sais pas, mon brevet ou le bac, ma licence après, c'était jamais mon diplôme à moi toute seule, c'était notre diplôme. Genre, j'ai eu ma licence, je me souviens, il était 23h quand j'ai eu les résultats. Et je l'ai quand même appelée pour lui dire. On a réussi. On a eu notre licence.
C'est elle qui t'a donné une force pour avancer, pour accomplir ces choses-là. Elle t'a donné l'autorisation et la force de le faire, on dirait.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est une partie de moi, en fait. Je l'ai jamais considérée vraiment comme une autre personne. Enfin, c'était vraiment très fusionnel.
Ouais, c'est le mot-là qui me venait aussi. Et... Bon, elle n'est plus là aujourd'hui, mais encore aujourd'hui, j'imagine qu'elle est très présente. Comment elle arrive? Comment elle est là dans ta vie?
Dans plein de petites choses que je fais, même au quotidien. Et alors, mon conjoint se moque de moi gentiment, mais après des choses voilà, qui sont de la culture musulmane dans laquelle j'ai grandi quand même. Voilà, on embrasse le pain avant de le jeter. Voilà, c'est un truc qu'on fait, donc je le fais. Et c'est vraiment des choses comme ça, des petites choses qui
oui,
se rappellent à...
Il y a des reproductions de gestes qui lui appartiennent, mais que tu épouses totalement et tu le fais par elle, pour elle.
Oui, bien sûr, alors que je ne questionne même pas ça, je me pose pas la question du sens que j'y mets derrière, c'est elle en fait. C'est elle, donc forcément, c'est bien.
Mais c'est aussi des gestes pour ne pas l'oublier, pour la faire exister
Dans les dernières années de sa vie, j'avais commencé à l'enregistrer. Alors moi, j'étais hyper structurée, j'avais des questions, etc., etc. J'ai très rapidement compris que mes questions, je pouvais les oublier, qu'elle allait bien me dire ce qu'elle voulait, quand elle voulait, et c'était très bien comme ça. Et donc, je lui disais que j'allais écrire un livre sur elle. Et elle avait un traitement médical parce qu'elle faisait de l'insuffisance rénale, donc elle allait à la clinique trois fois par semaine. Et donc, elle avait dit à son médecin, « Ma petite fille écrit un livre sur moi. » Elle était fière, hein. Elle était super fière. J'ai 12 ou 13 heures d'enregistrement quand même. Hein. Donc, je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Je vais le faire quand je me sentirai vraiment prête.
Pour ces choses-là, il y a toujours un moment idéal qui finit par arriver. Il ne faut pas forcer les choses.
Ouais, j'ai essayé de réécouter, ce n'est pas forcément simple. Donc voilà. Mais j'avais envie de faire ça pour elle quand je me suis dit qu'elle était triste de tout ce qu'elle avait pas. Tout ce qu'elle n'avait pas pu faire, en fait. Et je me suis dit, je vais peut-être lui montrer ce qu'elle a fait en l'écrivant.
Oui, parce que quand tu dis lui montrer ce qu'elle a fait, qu'est-ce que tu l'as vu faire, toi, qui t'inspire ou qui t'émeut encore aujourd'hui?
Je l'ai vu Bah, je l'ai vu nous rassembler. Quand j'avais 6 ans, l'une de mes tantes, bah, l'une de ses filles, est morte. Et on pourrait se dire, enfin, c'est un événement dévastateur dans la vie d'un parent, en fait. Elle avait un cancer, elle était chez nous, enfin, elle est décédée chez nous, en fait. Et en fait, elle a rassemblé tout le monde. Une de mes autres tantes nous disait, en fait, elle a fait comme une poule avec ses petits poussins. Elle a ramené tout le monde. Elle a couvé tout le monde pour qu'on se guérisse tous ensemble. C'est fort, ça, quand même.
Et elle existe encore dans les conversations aussi entre les gens de la famille, quand vous vous voyez, quand vous vous croisez, elle imprègne encore.
Pas forcément dans les conversations, mais elle imprègne parce qu'elle est, ouais, elle est là. Enfin, elle était le pilier de cette famille, en fait. Vraiment, on se posait pas de questions. C'était Noël, c'était les repas de famille, c'était tout ça, en fait. C'était tout le temps à la maison. Enfin, du coup, c'était chez moi aussi. Donc.
Et toi, tu parlais un peu de cette autonomie, de faire des études, de faire ses choix. Il y a d'autres grands principes comme ça qui viennent d'elle. Alors, c'est déjà monumental. Hein.
Pas forcément. J'ai rien d'autre qui me vient en tête. Après, effectivement, au cours de mes études, j'ai voulu partir et je suis partie à l'étranger, en fait. Et j'ai vécu à l'étranger plusieurs années. Et j'avais peur de partir parce que j'avais peur de la laisser.
Oui, il y a eu, à un moment donné, il y a eu une séparation.
Mmh. Oui, c'est ça. Et en fait, j'avais peur, bon, j'avais peur moi aussi de partir, parce que la première fois que je suis partie, c'était pour venir vivre à Angers. Et j'avais 19 ans. Et donc, j'avais peur et je lui ai demandé. Et elle m'a dit, l'important, c'est que tu fasses ce qui te rend heureuse, toi. Donc, du coup, je suis partie. Ça m'a fait du bien. Et après, je suis partie à l'étranger. Et quand elle est morte, j'avais 27 ans. Je vivais à l'étranger. Après l'enterrement, je suis retournée voir son médecin qui la suivait pour la dialyse, et je lui ai demandé si c'était à cause de moi qu'elle était morte, comme si le fait de partir ça l'avait tuée. Et il m'a répondu: c'est grâce à vous qu'elle a tenu aussi longtemps.
Oui, donc ça a complètement renversé ta crainte de l'avoir laissée et de l'avoir abandonnée. Au contraire, quoi, c'était déjà un miracle qu'elle tienne si loin, quoi, qu'elle résiste à la maladie.
Oui, c'est ça, parce que rapidement, même quand j'étais ado, j'ai pas fait de crise d'ado, je me suis pas rebellée, moi. Enfin, j'avais pas de raison particulière, mais c'est surtout que je me disais: oh là là, mais si je fais ça, je vais l'abîmer, en fait, et elle va mourir. Et moi, pour moi, c'était bah, si elle meurt, moi aussi je meurs, en fait. C'était, je voyais pas trop. Je lui avais dit ça. De toute façon, le jour où tu meurs, moi aussi, je vais mourir. Elle dit, mais dis pas ça.
Ça rappelle la fusion que tu disais. On a notre diplôme ensemble, on vit ensemble, on meurt ensemble.
C'est ça. Alors, force est de constater que non, du coup. Heureusement, mais moi, pendant très longtemps, j'envisageais sa mort comme la plus grosse épreuve de ma vie.
Oui, parce que c'est des moments inéluctables, on sait qu'ils vont arriver.
Bien sûr. Je l'appelais tous les jours quand j'étais à l'étranger. Je n'ai jamais appelé personne tous les jours. Et encore maintenant, je n'appelle personne tous les jours. Elle est la seule personne que j'appelais tous les jours. Comme ça, juste pour vérifier, j'imagine.
Et il y avait des paroles d'amour, on se disait...
Tous les jours, on se disait je t'aime, on se prenait dans les bras tout le temps.
Mais après, je me demandais si ces mots-là existaient, étaient prononcés, ou si c'était non-dit.
Ah non, pas du tout. Et puis vraiment, il y a peut-être un côté culturel aussi à ça, mais dans ma famille... dans la famille Assaïn, on se dit beaucoup, voilà, les choses. Et c'est vrai que voilà, et ma grand-mère, c'était important que je lui dise que de tous les matins, des fois qu'elle oublierait, j'en sais rien, mais que je l'aimais. Et donc voilà, quand c'était son anniversaire, je me réveillais avant elle, ce qui était quand même une épreuve parce qu'elle se réveillait très très tôt. Et je lui faisais une petite banderole et je lui préparais son café. Voilà, c'était hyper important pour moi que moi je m'occupe d'elle, que moi et pas les autres. Je me souviens quand j'avais 15-16 ans, elle avait eu un petit souci de santé. Et je voulais pas que mes tantes, ses propres filles, bah, viennent s'occuper d'elle, etc. Non, mais on est bien à la maison, laissez-nous. Je m'occupe d'elle. C'est dingue de faire ça, c'est ses filles, j'aurais dû les laisser.
En tout cas, tu as bien fait de le lui dire chaque jour. Isma, il est déjà l'heure de mettre fin à cette conversation grand maternelle. Un grand merci d'être venu partager Marie-Louise Chérifa avec nous. Merci à toutes et à tous de votre écoute. On se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode d'Albertine. Et comme d'habitude, on va terminer avec un texte choisi et lu par notre invité. Je te laisse la parole, Isma. C'est un texte que tu as écrit.
C'est un texte que j'ai écrit. Je ne sais plus quand exactement. 15 avril 2012. Je ne sais plus s'il faisait beau ou pas. Cette information ne revêt aucune réelle importance lorsque ce jour est aussi celui qui a vu la mort de la personne qui compte le plus pour vous. 3 jours auparavant, je me mettais en route vers Neuilly-sur-Marne. Résidant à l'époque à l'étranger, prendre l'avion était devenu un acte quasi routinier, au grand dam de mes convictions écologiques naissantes. Cela faisait plusieurs jours que, à l'occasion de mes appels quotidiens, je constatais une dégradation de l'état de ma grand-mère. Ma tante était venue s'installer avec elle depuis peu. La veille de mon départ pour la France, personne ne m'avait dit qu'elle avait été admise à l'hôpital. Personne ne voulait m'inquiéter. Personne ne voulait se dire que ce que nous vivions là était certainement les derniers jours de Mima. J'étais censée rester une dizaine de jours. Je me réjouissais de passer autant de temps avec Mima. Du temps que je comptais bien mettre à profit pour lui poser encore plein de questions sur sa vie et pour enregistrer le moindre de ses mots. J'étais loin, très loin d'imaginer que ses capacités physiques avaient depuis longtemps commencé à décliner. Lorsque je suis arrivée le jeudi soir, je suis directement allée à l'hôpital. La clémence du personnel soignant face à ma présence dans les locaux, bien au-delà des heures de visite, a été le premier indice de sa fin approchante. Elle ne se nourrissait déjà plus depuis plusieurs jours, avais-je appris par la suite. Elle était à bout de force et son immobilité ne faisait qu'ajouter à l'ambiance étrangement sereine qui régnait dans sa chambre. Lorsque je me suis approchée de son lit, je n'ai pu retenir mes larmes. Tout devenait concret. Tout ce que j'avais imaginé, anticipé. Depuis le taxi qui m'avait amené à l'aéroport de Budapest jusqu'à l'ascenseur qui m'avait conduit au couloir qui menait à sa chambre d'hôpital. Elle allait mourir. Quand je repartirais, 10 jours plus tard, elle serait morte. À ce moment précis, je me suis promis de rester en France, auprès d'elle, jusqu'à son dernier souffle. J'ai dit à ma tante que je resterais 1 ou 2 ou 3 mois s'il le fallait, mais je ne repartirais pas. Je ne sais pas si à ce moment je pensais réellement qu'elle tiendrait ne serait-ce qu'une semaine dans cet état. Je l'ai embrassée. Je l'ai serrée dans mes bras, j'ai pleuré contre sa joue et j'ai senti son odeur jusqu'à l'écœurement. Je lui dis que je serai de retour le lendemain matin à la première lueur du jour et que je ne la quitterai pas. Et c'est ce que j'ai fait durant les 3 jours qui ont suivi, jusqu'au dimanche 15 avril. Ce jour-là, vers 18h, ma tante m'a sommée de rejoindre le convoi qui rentrait à l'appartement de ma grand-mère pour dîner. Je ne voulais pas. Je sentais que je devais rester. Manger était secondaire, tout était secondaire. Mais face à la pression familiale, j'ai cédé et je suis rentrée. Plus tôt dans la journée, j'avais reçu ce que je qualifie a posteriori de dernier câlin de ma grand-mère. J'avais demandé à être seule avec elle pendant quelques minutes. Lorsque la porte s'était refermée derrière la dernière personne, je m'étais tournée vers elle en sanglotant, lui disant qu'il ne fallait pas qu'elle parte, que je ne pourrais jamais vivre sans elle, et en lui rappelant cette promesse que j'avais faite de mourir avec elle. Très lentement, elle a levé son bras vers moi et a approché sa main de mon dos, comme pour me faire venir à elle. J'ai approché mon visage du sien, son bras se posant délicatement sur mon dos, ma joue se rapprochant de sa bouche et elle a fait claquer ses lèvres l'une contre l'autre. Elle venait de me donner un baiser, le dernier. Son dernier baiser avait été pour moi. Aux alentours de 19h30, attablée avec une partie de ma famille, je ne cessais de me dire qu'il nous fallait retourner à l'hôpital le plus rapidement possible. J'étais persuadée qu'elle allait mourir pendant que j'étais assise ici et je ne supportais pas cette idée. Je ne voulais pas qu'elle pense que je l'avais abandonnée. Après toute cette vie que nous avions partagée ensemble, elle et moi, dans ce grand appartement qui fut l'appartement familial pendant tant d'années, avant mon arrivée en 86. Puis le téléphone a sonné. J'ai bondi de ma chaise, empoigné le combiné. Ma tante a dit « Il faut venir maintenant ». J'ai raccroché et me suis retournée vers la table à manger lentement et j'ai commencé à pleurer. Comme un seul homme, tout le monde s'est levé, laissant en place tout le repas, ce qui aurait grandement excédé ma grand-mère. Une succession de chaussures, de manteaux, vestes et sacs à main, bruit de clés, portes qui se ferment, et la précipitation dans les escaliers de notre immeuble. Nous étions tous là, ses enfants et ses petits-enfants qui avaient pu venir. Comme à l'accoutumée, tout le monde parlait en même temps et les rires s'entrechoquaient aux larmes. Les anecdotes et les souvenirs de l'Algérie ressurgissaient, comme pour accompagner Mima dans son dernier souffle. Sa mort serait à l'image de sa vie, entourée de ses enfants et avec l'Algérie, son pays, en toile de fond. Je suis entrée dans la chambre et tout le monde m'a regardée. Je pense qu'ils appréhendaient ma réaction. J'avais compris qu'elle était déjà morte et que ce baiser, cette étreinte que j'allais lui donner, elle ne les sentirait pas. Mais j'étais apaisée. La seule chose à mon esprit était ce dernier baiser qu'elle m'avait donné. Je me sentais détentrice d'un secret si précieux qu'il me protégeait, pour le moment, de la douleur abyssale que je connaîtrais par la suite. Je me suis approchée du lit sur lequel reposait le corps de ma grand-mère. Je lui ai caressé la joue et je lui ai déposé un baiser furtif sur le front. Je lui ai murmuré que j'étais prête à la laisser partir. Si elle avait décidé de s'en aller, c'est qu'elle considérait que je l'étais. Et je n'allais certainement pas contredire ça.